La clé des vents. Il était une fois, bien avant que ne naisse le grand-père de ton grand-père, à la lisière d'une terre sauvage et inexplorée qu'on appelait la forêt sans fin, un petit garçon nommé Tim, qui vivait avec sa mère Nell et son père, le grand Ross. Pendant un temps, ils vécurent heureux, bien qu'ils n'aient pas beaucoup d'argent. « Je n'ai que 4 choses à te léguer, » disait le grand Ross à son fils. « Mais cela suffit bien. Peux-tu me les réciter, mon garçon ?» Tim le lui avait répété maintes et maintes fois, mais il ne s'en lassait jamais.
« Ta hache, ta pièce porte-bonheur, ton lopin de terre et ta place en ce monde, qui est aussi bonne que celle d'un roi ou d'un pistolero. »
Il marquait une pause et ajoutait
« Et aussi ma mama, ça fait 5. »
Le grand Ross s'esclaffait et se penchait sur son fils pour lui baiser le front, car c'était à la fin du jour qu'il récitait ce catéchisme. Derrière eux, sur le seuil, Nell attendait de l'embrasser à son tour.
« Si fait, » disait le grand Ross. « Nous ne devons jamais oublier Mama, car sans elle, nous n'aurions rien. »
Et Tim s'endormait alors, sachant qu'il était aimé et qu'il avait une place en ce monde, écoutant le vent nocturne caresser le cottage de son étrange souffle. Il s'y mêlait le doux parfum des florus poussant à la lisière de la forêt sans fin et l'odeur âcre, mais plutôt agréable, des arbres de fer qu'on trouvait dans ces profondeurs, là où seuls les plus braves s'aventuraient. C'était des temps heureux, mais comme nous l'apprennent la vie et les contes, les temps heureux jamais ne durent. Un jour, alors que Tim avait 11 ans, le grand Ross et son associé, le grand Kels, menèrent leur chariot sur la grande route pour gagner la piste du bois de fer, comme il le faisait chaque jour, hormis le 7e. Car alors tout le village de l'arbre se reposait. Mais ce jour-là, seul le grand Kels revint de la forêt. Sa tunique était roussie par le feu et sa peau noircie de suie. Il y avait un trou dans la jambe gauche de sa culotte de laine. En dessous, sa peau était rougie de cloques. Il était avachi sur le banc de son chariot, comme trop fatigué pour se tenir droit. Nell Ross sortit sur le seuil de sa maison et s'écria
« Où est le grand Ross? Où est mon mari ?»
Le grand Kel secoua lentement la tête et des cendres tombèrent de ses cheveux pour se poser sur ses épaules. Il ne prononça qu'un seul mot. Mais cela suffit à faire flageoler les jambes de Tim et à faire hurler sa mère. Ce mot était dragon. Aujourd'hui, il n'existe rien de comparable à la forêt sans fin, car le monde a bien changé. Il était alors plein de ténèbres et de dangers. Les bûcherons de l'arbre le savaient mieux que personne dans l'entre-deux-monde. Mais eux-mêmes ignoraient tout ce qui pouvait vivre ou prospérer à 10 roues de l'endroit où les bosquets de florus faisaient place aux arbres de fer. Ces immenses et sombres sentinelles. La forêt profonde demeurait une énigme, peuplée d'étranges plantes et d'étranges animaux, d'inquiétants et puants marécages et, disait-on, de vestiges souvent meurtriers laissés par les anciens. Les habitants de l'arbre redoutaient la forêt sans fin, et avec raison. Le grand Ross n'était pas le premier bûcheron à ne jamais revenir de la piste du bois de fer. Mais il l'aimait, car c'était grâce aux arbres de fer qu'ils nourrissaient et vêtaient leur famille. Il savait, même si aucun d'eux ne l'aurait avoué, que la forêt était vivante. Et comme tous les êtres vivants, elle devait manger. Imaginez que vous soyez un oiseau survolant cette immense étendue sauvage. Vue des hauteurs, elle évoque une robe géante, d'un vert si foncé qu'il en est presque noir. En bas court un ourlet d'un vert plus clair. Ce sont les bosquets de Florus. Juste en dessous, à l'extrémité de la baronnie du Nord, se trouve le village baptisé l'Arbre. C'était la dernière cité de cette contrée qu'on disait alors civilisée. Un jour, Tim avait demandé à son père ce que signifiait « civilisé ».«
Taxé », avait-il répondu en riant.
Mais il ne semblait pas amusé. La plupart des bûcherons s'arrêtaient au bosquet de Florus. Le danger y était néanmoins présent. Le pire, c'était les serpents, et on trouvait aussi des werewels, des rongeurs venimeux aussi grands que des chiens. Au fil des ans, nombre d'hommes avaient péri parmi les Florus, mais le jeu en valait la chandelle. Le bois de Florus, doté d'un grain très fin et d'une belle couleur dorée, était si léger qu'il aurait pu flotter dans l'air. On l'utilisait pour construire des bateaux d'eau douce, mais il ne convenait pas à la mer, car le moindre coup de vent aurait réduit en pièces un navire bâti de bois de Florus. Non, le bois de fer était nécessaire à la navigation maritime, et Odiak, l'envoyé de la baronnie qui venait deux fois l'an à la Syrie, l'achetait à un bon prix. C'étaient les arbres de fer qui coloraient la forêt sans fin de ce vert tirant sur le noir. Et seuls les plus hardis des bûcherons osaient les exploiter. Car les dangers ne manquaient pas sur la piste du bois de fer, qui ne s'enfonçait guère dans la forêt sans fin, rappelez-vous. Des dangers à côté desquels serpents, werewels et abeilles mutées semblaient inoffensifs. Les dragons, par exemple. Et c'est ainsi que dans sa 11e année, Tim Ross perdit son pas. Désormais, plus de hache dans la main du grand Ross, ni de pièces porte-bonheur pendant à une chaîne d'argent autour de son cou de taureau. Bientôt, sans doute, n'y aurait-il plus de lopins de terre, ni de place en ce monde. Car à cette époque, quand venait le temps de la terre vide, arrivait alors le collecteur de la baronnie. Il portait un rouleau de parchemin sur lequel figuraient toutes les familles de l'arbre, et à chacune d'elles était associé un chiffre. Ce chiffre était le montant de la taxe due. Si vous pouviez la payer, 4, 6 ou 8 barrettes d'argent, voire une barrette d'or pour les grandes maisonnées, tout allait bien. Sinon, la baronnie confisquait votre lopin et vous étiez condamné au vagabondage. Cette décision était sans appel. Tim passait la moitié de ses journées au cottage de la veuve Smack, qui instruisait les enfants en échange de nourriture. Des légumes en général, parfois un peu de viande. Jadis, avant que les ulcères n'aient dévoré la moitié de son visage, du moins les enfants le murmuraient-ils, mais aucun d'eux ne l'avait vu. C'était une grande dame vivant dans les lointains domaines de la baronnie, et du moins les parents le prétendaient-ils, mais aucun d'eux n'en savait rien. À présent, elle portait un voile et apprenait aux garçons les plus futés, mais aussi à quelques filles, à écrire et à pratiquer cet art quelque peu douteux qu'on appelle la mathematica. C'était une femme d'une intelligence redoutable, qui ne s'en laissait jamais compter et n'était que rarement fatiguée. Ses élèves finissaient en général par l'aimer, et ce, en dépit de son voile et des horreurs qu'ils imaginaient en dessous. Mais de temps à autre, elle s'écriait que sa tête allait éclater et qu'elle devait aller s'allonger. Ces jours-là, elle renvoyait les enfants chez eux, leur enjoignant parfois de dire à leurs parents qu'elle ne regrettait rien, et surtout pas son prince charmant. Saïs Mac fit une crise environ un mois après que le dragon eut incinéré le grand Ross, et lorsque Tim regagna son cottage, qui s'appelait Bonne Vue, il jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit que sa mère pleurait dans la cuisine, la tête posée sur la table. Il laissa choir son ardoise, encore couverte de problèmes de mathematica, des divisions, un sujet qu'il redoutait jusqu'à ce qu'il découvre que c'était tout bêtement des multiplications à l'envers, et se précipita à ses côtés. Elle leva les yeux vers lui et tenta de lui sourire. En voyant le contraste entre ses lèvres incurvées et ses yeux mouillés, Tim eut envie de pleurer lui aussi. Elle était au bout du rouleau, ça se voyait.
« Que se passe-t-il, maman? Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Je pensais à ton père, c'est tout. Parfois, il me manque beaucoup. Pourquoi rentres-tu si tôt ?»
Il commença à lui expliquer, mais se tut en voyant la bourse en daim fermée par un lacet. Elle avait posé son bras dessus comme pour la dissimuler, et quand elle comprit qu'il l'avait repérée, elle l'enleva de la table pour la poser sur son giron. Tim était loin d'être idiot, aussi prépara-t-il du thé avant de dire quoi que ce soit. Lorsqu'elle en eut bu quelques gorgées, « avec du sucre », avait-il insisté, bien qu'il n'en reste guère dans le pot, et se fut un peu calmé, et lui demanda ce qui n'allait pas.
« Je ne vois pas ce que tu veux dire. Pourquoi recomptais-tu notre argent ? Le peu qu'il en reste. Le collecteur arrivera après la moisson. Oui, je le connais bien. À peine le feu de joie aura-t-il refroidi qu'il descendra sur nous. Et que se passera-t-il ? Cette année, il exigera 6 barrettes d'argent, voire 8, car les taxes ont augmenté, à ce qu'on dit. Sans doute à cause d'une de leurs stupides guerres, je ne sais où. » Les soldats aiment tellement faire flotter leurs bannières. Combien avons-nous encore ? Un peu plus de 4 barrettes, pas tout à fait 5. Nous n'avons pas de bêtes à vendre, nous n'avons pas un seul rondin de bois de fer depuis la mort de ton père. Qu'allons-nous faire ?
Dit-elle en se remettant à pleurer.
Qu'allons-nous faire ?
Tim était aussi terrifié qu'elle, mais comme il n'y avait plus d'homme pour la réconforter, il ravala ses larmes, lui passa les bras autour du cou et fit de son mieux pour la consoler.
Si nous avions sa hache et sa pièce, je les vendrais au vieux Chauvon,
dit-elle finalement. Tim en frissonna d'horreur. Bien que la hache et la pièce aient disparu, consumées en même temps que leur jovial et brave propriétaire.
Tu ne ferais pas ça, pas à d'Estrie. Si fait,
dit-elle.
Pour conserver son lopin et sa place, je le ferai. C'était à eux qu'il tenait le plus, ainsi qu'à toi et à moi. S'il pouvait nous parler, il dirait « Fais-le, Nell, je t'en prie. »
Soupir.
Mais le collecteur de la baronnie reviendrait l'année prochaine, et aussi la suivante.
Elle se prit la tête entre les mains.
« Oh, Tim, on va nous chasser de notre terre, et je ne puis rien y faire. » « Et toi ?»
Tim aurait donné tout ce qu'il possédait, c'est-à-dire pas grand-chose, pour pouvoir lui répondre. Mais il en était incapable. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était lui demander quand le collecteur arriverait à l'arbre sur son grand cheval noir, juché sur une selle valant plus d'argent que tout ce que le grand Ross avait gagné en risquant sa vie sur cette étroite sente qu'on appelait « la piste du bois de fer ». Elle leva 4 doigts.
Dans 4 semaines, si le beau temps se maintient,
elle en leva 4 autres.
8, si nous avons du mauvais temps et s'il est retardé chez les fermiers du médian. Nous ne pouvons espérer mieux, je pense. Et alors ?
Il se passera quelque chose avant cela, dit Tim. Pa disait que la forêt donne toujours à ceux qui l'aiment.
Moi, je l'ai toujours vu prendre,
dit Nell en enfouissant de nouveau la tête entre ses mains. Lorsqu'il voulut lui passer un bras autour du cou, elle le chassa. Tim sortit ramasser son ardoise en traînant le pas. Jamais il ne s'était senti si triste, si effrayé.
« Il va sûrement se passer quelque chose,
se dit-il.
Je vous en prie, faites qu'il se passe quelque chose. »
L'ennui avec les souhaits, c'est qu'il leur arrive parfois de se réaliser. À l'arbre, la pleine terre était généreuse. Même Nell en convenait, bien que la moisson lui ait laissé un goût amer. L'année suivante, Tim et elle suivraient peut-être les moissonneurs, un lourd sac de toile sur les épaules, s'éloignant de plus en plus de la forêt sans fin, et son cœur se serrait devant la beauté de cet été. La forêt était un monde terrible, qui lui avait pris son homme, mais c'était le seul qu'elle ait jamais connu. La nuit, quand soufflait le vent du nord, il entrait dans sa chambre par la fenêtre comme un amant, parfumant son lit d'une senteur unique, à la fois douce et amère, tel un mélange de fraises et de sang. Parfois, lorsqu'elle dormait, elle rêvait de ses combes profondes, de ses ruisseaux secrets et d'un soleil si diffus qu'il luisait ainsi que du cuivre vert de grisé. Quand souffle le vent du nord, l'odeur de la forêt apporte des visions, disaient parfois les anciens. Nell ignorait si c'était là une fable ou une vérité, mais elle savait que l'odeur de la forêt sans fin était l'odeur de la vie, mais aussi de la mort. Et elle savait que Tim aimait la forêt comme son père l'avait aimée, ainsi qu'elle-même d'ailleurs, quoique souvent contre sa volonté. Elle avait redouté en secret le jour où le garçon serait assez grand et assez fort pour s'engager sur cette piste dangereuse aux côtés de son pas. Mais elle regrettait à présent que ce jour ne doive jamais venir. Sa Ismac et sa Mathematica, c'était bien joli. Mais Nell savait ce que voulait son fils et elle haïssait le dragon qui le lui avait volé. Sans doute était-ce une femelle qui cherchait à protéger son œuf, mais Nell ne l'en détestait pas moins. Elle espérait que cette salope écailleuse aux yeux jaunes s'étoufferait sur son propre feu et exploserait, comme il arrive parfois dans les contes d'antan. Un jour, peu après que Tim l'eut découverte en larmes en rentrant plus tôt que prévu, le grand Kels se présenta chez elle. Comme Tim avait trouvé du travail, il aidait le vieux d'Estry à couper les foins pendant 15 jours. Elle se retrouvait toute seule dans son jardin, à genoux parmi les plantations. Lorsqu'elle vit arriver l'ancien associé de son époux, elle se releva et s'essuya les mains sur le tablier en toile qu'elle appelait son Wedicken. Il lui suffit d'un coup d'œil à ses mains propres et à sa barbe taillée pour comprendre ce qui l'amenait. Enfant, Nell Robertson, Jack Ross et Bern Kells étaient les meilleurs amis du monde. Frères et sœurs, quoique issus de litières distinctes, disaient les anciens du village. En ce temps-là, ils étaient inséparables. Quand ils étaient sortis de l'enfance, les deux garçons étaient tombés amoureux d'elle. Et si elle les aimait tous les deux, c'était au grand Ross qu'allait son cœur, et c'était lui qu'elle avait épousé et accueilli dans son lit. Mais nul ne savait dans quel ordre les choses s'étaient faites, et ni elle ni lui ne lui avaient jamais révélé. Le grand Kels avait réagi en homme. Il avait fait office de garçon d'honneur à leur mariage, les saignant d'une écharpe de soie après que le prêcheur eut prononcé leur union. Lorsqu'il avait ôté la dite écharpe à la sortie du temple, quoiqu'elle ne les ait jamais quittés comme le voulait la coutume, il les avait embrassés tous les deux en leur souhaitant de longues journées et de plaisantes nuits. Il faisait chaud le jour où il se présenta à elle, mais il était vêtu d'une veste de laine. Il sortit de sa poche une corde de soie nouée, ainsi qu'elle s'y attendait. Une femme sait ces choses-là. Même mariée depuis des années, elle les sait, oui, là. Et le cœur de Kels était resté le même. « Le veux-tu » demanda-t-il. « Si tu le veux, je vendrai mon lopin à Anderson. Il le convoite, car il est voisin du sien, et je me contenterai de celui-ci. Le collecteur ne va pas tarder, ainsi que tu le sais, et il exigera son dû. Sans homme à tes côtés, comment le paierais-tu ? » ?»«
Je ne le puis, comme tu le sais bien. » »«
Alors dis-moi, bouclerons-nous la corde ?» Elle s'essuya les mains sur son Wedicken, mais elles étaient déjà aussi propres qu'elles pouvaient l'être sans eau de source.
« Je... Il faut que j'y réfléchisse. »«
Pourquoi faire ?» Il attrapa son bandana, bien rangé dans sa poche et non passé autour de son cou, comme c'était l'usage chez les bûcherons, et s'épongea le front.
« Soit tu acceptes et nous reprenons le cours de notre vie, je veillerai à ce que le gamin trouve du travail, bien qu'il soit encore trop jeune pour aller en forêt. Soit vous devenez journaliers tous les deux. Je peux partager ce que j'ai, mais je ne peux le donner même si je le souhaite. Je n'ai qu'une place en ce monde. Tu l'intuites ?»«
Il veut m'acheter pour que je comble le vide que Millicent a laissé dans son lit, »
songea-t-elle. Mais c'était là une pensée bien méchante, vu qu'elle connaissait cet homme-là bien avant qu'il soit devenu un homme, et qu'il ait travaillé des années durant aux côtés de son mari bien-aimé, au sein des dangereux bosquets au bout de la piste du bois de fer.
« L'un s'affaire et l'autre veille, » disaient les anciens. « Toujours ensemble et jamais séparés. »
À présent que Jack Ross n'était plus, Bernkels lui faisait la cour. Rien que de très naturel. Toutefois, elle hésitait.
« Reviens demain à la même heure, si tu es toujours décidé, »
lui dit Nell.
« Je pourrai alors te répondre. »
Cela le contraria. Elle le vit sans peine. Dans ses yeux apparut un éclat qu'elle avait parfois aperçu du temps où elle était jeune fille et où deux beaux gars la courtisaient, ce qui faisait l'envie de toutes ses amies. Ce fut cet éclat qui la retint, alors que Kels se présentait comme un sauveur, lui faisant miroiter, à elle et à Tim, une solution au terrible dilemme qu'elle vivait depuis la mort du grand Ross. Peut-être s'en aperçut-il, car il baissa les yeux. Il s'abîma un moment dans la contemplation de ses pieds, puis il releva la tête et elle vit qu'il lui souriait. Ainsi, il était presque aussi beau que de son jeune temps, mais pas aussi beau que Jack Ross.
« Demain, entendu. Demain, dernier délai. Il est un dicton à l'ouest, ma chère. Ne regarde pas un présent à deux fois. » Car ce qui est précieux peut toujours s'envoler. »
Elle se lava au bord du ruisseau, resta quelques instants à humer la senteur douce amère de la forêt, puis rentra et s'allongea sur son lit. Jamais on ne voyait Nell Ross à l'horizontale tant que le soleil était dans le ciel. Mais elle avait besoin de réfléchir et de se souvenir d'une époque où deux jeunes hardis bûcherons se disputaient ses faveurs. Même si son cœur n'avait pas incliné vers Jack Ross, mais plutôt vers Bernkels, il n'était pas encore le grand Kels en ce temps-là, bien que son père ait déjà péri, tué en forêt par un Wurt ou quelque autre monstruosité. Elle ne pensait pas qu'elle aurait bouclé la corde avec lui. Lorsqu'il était sobre, Kels était plein de gaieté et de bonne humeur, et par ailleurs aussi régulier que le sable dans le sablier. Mais il devenait violent quand il avait bu, et il buvait souvent ce temps-là. Ses cuites devinrent plus longues et plus fréquentes après le mariage de Ross et de Nell, et plus d'une fois il se réveilla en prison. Jack avait supporté cela pendant un moment, mais après une cuite durant laquelle Kels avait presque démoli le saloon avant de s'effondrer, Nell dit à son époux qu'il fallait faire quelque chose. Le grand Ross s'en convint à contre-cœur. Il fit libérer son ami et associé, comme il l'avait souvent fait par le passé. Mais cette fois-ci, plutôt que de lui conseiller d'aller piquer une tête dans le ruisseau pour s'éclaircir les idées, il lui parla avec franchise.
« Écoute-moi, Bern, et ouvre bien tes deux oreilles. T'es mon ami depuis que j'ai appris à marcher à quatre pattes et mon associé depuis qu'on est devenu assez grand pour s'enfoncer au-delà des bosquets de Florus pour abattre des arbres de fer. Tu surveilles mes arrières et je surveille les tiens. Quand t'es sobre, nul n'est plus digne de ma confiance que toi. Une fois que t'as avalé de l'agnole, t'es aussi solide que des sables mouvants. Je peux pas aller seul dans la forêt et si je peux plus compter sur toi, tout ce que je possède en ce monde... Tout ce que nous possédons en ce monde est en danger.
J'aimerais pas devoir me chercher un nouvel associé, mais laisse-moi t'avertir. J'ai une femme
et j'aurai bientôt un enfant, et je ferai ce que je dois faire. »
Kells continua de boire, de beugler et de se battre pendant quelques mois, comme pour narguer son vieil ami, et la jeune épouse de celui-ci. Le grand Ross était sur le point de mettre un terme à leur association lorsque le miracle arriva. C'était un tout petit miracle, pas plus de 5 pieds du crâne aux orteils, et son nom était Millicent Redhouse. Ce que Berne Kells refusait de faire pour le grand Ross, il le fit pour Millie. Lorsqu'elle mourut en couche 6 saisons plus tard, et son bébé la suivit tout de suite avant même que la rougeur du travail ait reflué des joues de la malheureuse, comme le confia la sage-femme à Nell, Ross devint d'humeur lugubre.
« Il va se remettre à boire et les dieux savent ce qu'il adviendra de lui, » murmurait-on.
Mais le grand Kells resta sobre. Et lorsque ses affaires l'amenaient à proximité du saloon de Gitty, il traversait toujours la rue. Tel avait été le dernier vœu de Millie, disait-il, et ce serait insulter sa mémoire que de ne pas le respecter.
« Je mourrai plutôt que de boire à nouveau, » insistait-il.
Il avait tenu sa promesse. Mais Nell sentait parfois son regard sur elle, souvent même. Jamais il ne l'avait touchée d'une façon qu'on pouvait qualifier de familière, voire de déplacée. Il n'avait même pas profité de la moisson pour cueillir un baiser. Mais elle sentait ses yeux posés sur elle. Il la regardait non pas comme un homme regarde une amie ou l'épouse d'un ami, mais comme un homme regarde une femme. Tim rentra à la maison 1 heure avant le crépuscule, couvert de brins de paille de la tête aux pieds, mais ravi. Destry lui avait donné un bon d'achat au magasin du village, et sa femme avait ajouté à cette manne un sac de poivrons doux et de tomates. Nell accepta le papier et les légumes, le remercia, l'embrassa, lui donna une popkin bien fourrée et l'envoya se baigner au ruisseau. Devant lui, tandis qu'il se tenait avec de l'eau fraîche à mi-cuisse, des champs bandés de brouillard s'étendaient vers Gilead et le monde de l'intérieur. À sa gauche se massait la forêt, qui prenait naissance à moins d'une roue de là. Le crépuscule y régnait même en plein jour, disait son père. Alors qu'il pensait à son père, le bonheur qu'il avait habité à l'idée d'être payé comme un homme, ou presque, pour sa journée de travail, s'enfuit aussi vite que le grain coule d'un sac percé. Le chagrin le visitait souvent, mais il en était toujours surpris. Il s'assit quelque temps sur un gros rocher, les genoux ramenés contre son torse et la tête reposant sur ses bras. Se faire tuer par un dragon si près de la lisière de la forêt, c'était aussi improbable qu'injuste, mais cela s'était déjà produit. Son père n'était pas le premier à périr ainsi, et il ne serait pas le dernier. La voix de sa mère monta au-dessus des champs, l'appelant à la maison où l'attendait un vrai souper. Tim lui répondit d'une voix pleine de joie, puis s'agenouilla sur le rocher pour asperger d'eau froide des yeux qui lui semblaient gonflés, bien qu'il n'ait pas versé de larmes. Il s'habilla en hâte et partit entre-temps. Sa mère avait allumé les lampes, car l'obscurité montait, et elle projetait de longs rectangles de lumière sur son joli jardinet. Fatigué, mais à nouveau ravi, car les petits garçons sont pareils aux girouettes, ça oui, Tim courut vers cette lueur accueillante. Une fois qu'ils eurent soupé et nettoyé les quelques plats, Nell dit
« Je voudrais te parler de mère à fils, Tim, mais pas seulement. Tu es assez grand pour travailler un peu, tu ne tarderas pas à sortir de l'enfance, plutôt que je ne l'aurais souhaité, et tu mérites d'être consulté pour les décisions importantes. »
« C'est à propos du collecteur, maman ?»«
En partie, oui, mais il y a autre chose, je pense. »
Elle avait failli dire « J'en ai peur, et non, je pense. » Mais pourquoi aurait-elle fait ça ? Certes, elle devait prendre une décision des plus graves et des plus difficiles, mais de quoi avait-elle peur ? Elle le précéda dans leur salle de séjour,
si petite que le grand Ross parvenait presque à en toucher les murs lorsqu'il se plantait en son centre et tendait les bras. Ils s'assirent devant la cheminée éteinte, car c'était une douce nuit de pleine terre, et elle lui dit tout ce qui s'était passé entre elle et le grand Kells. Tim l'écouta avec surprise et sentit monter son malaise.
« Voilà, »
dit Nell pour conclure.
« Qu'en penses-tu ? »
Mais avant qu'il ait pu répondre, peut-être parce qu'elle voyait sur son visage l'inquiétude qui habitait son cœur, elle reprit
« C'est un brave homme, et c'était pour ton père un frère plus qu'un ami. Je crois qu'il m'aime et qu'il t'aime. »
« Non, »
songea Tim.
« Pour lui, je fais seulement partie du lot. Il m'a jamais regardé, sauf quand j'étais avec Pa, évidemment, ou quand j'étais avec toi. Je sais pas, maman. »
L'idée du grand Kells à la maison, dans le lit de Mama, à la place de Pa, lui retournait l'estomac, comme s'il avait du mal à digérer. Et c'était d'ailleurs ce qui lui arrivait.
« Il a cessé de boire, »
dit-elle. On aurait dit qu'elle parlait toute seule.
« Ça fait des années. C'était un vrai sauvage quand il était jeune, mais ton Pa l'a bien dressé. Et il y a eu Millicent, bien sûr. »
« Peut-être, mais ils sont plus là, ni l'un ni l'autre, »
fit remarquer Tim.
« Et puis, maman, il a toujours pas trouvé de nouvel associé pour exploiter les arbres de fer. Il va tout seul dans la forêt et c'est fichtrement risqué. »«
Il est encore tôt. Il finira bien par trouver quelqu'un, car il est fort et il connaît bien ses concessions. Ton père lui a appris à les choisir quand ils débutaient tous les deux. » Et ils ont bien balisé la zone au bout de la piste. »
Tim savait qu'elle disait vrai, mais il doutait que Kells parvienne à se trouver un associé. Les autres bûcherons ne l'aimaient guère, du moins le lui semblait-il. Sans doute ne savait-il même pas qu'il l'évitait, comme il serait passé à l'écart d'un buisson d'épines à poison, mais il les avait vus faire du coin de l'œil.
« Mais peut-être que je l'ai seulement imaginé. »
songea-t-il.
« Je sais pas, »
répéta-t-il.
« Une corde bouclée à l'église ne peut être débouclée. »
Nell partit d'un rire nerveux.
« Par la pleine terre ? Qui donc t'a dit cela ?
Toi ? »
Elle sourit.
« Ouais, peut-être. C'est vrai que je parle trop. La nuit porte conseil, nous y verrons plus clair demain matin. »
Mais ni l'un ni l'autre ne dormit bien. Tim se demanda quel effet ça ferait d'avoir le grand Kells comme beau-pa. Serait-il bon avec eux ? Emmènerait-il Tim dans la forêt pour lui apprendre les rudiments du métier de bûcheron ? Ce serait une excellente chose, songea-t-il, mais sa mère souhaiterait-elle le voir exercer le métier même qui avait tué son mari ? Préférerait-elle qu'il ne s'approche pas de la forêt sans fin, qu'il devienne un fermier ?
J'aime bien le vieux d'Estrie, mais jamais je ne serai fermier comme lui. Pas avec la forêt sans fin tout près et le monde entier à découvrir.
Dans la pièce voisine, Nell se colletait avec ses propres questions. Elle se demandait surtout à quoi ressemblerait leur vie si elle refusait la proposition de Kells et s'ils étaient chassés de la seule place qu'ils aient jamais occupée. Que se passerait-il s'ils n'avaient rien à donner au collecteur de la baronnie le jour où celui-ci arriverait sur son grand cheval noir ? Il fit encore plus chaud le lendemain, mais le grand Kells se présenta dans la même tenue d'apparat. Son visage était cramoisi. Nell songea qu'elle ne sentait pas le graffe sur son haleine, et quand bien même elle l'aurait senti, ce n'était que du cidre, et un homme a bien le droit de boire un verre pour se donner du courage. Et puis sa décision était arrêtée, ou presque. Avant qu'il ait pu poser sa question, elle prit la parole, avec toute la hardiesse dont elle était capable.
« Mon garçon m'a rappelé qu'une corde bouclée à l'église ne peut être débouclée. »
Le grand Kells se renfrogna, mais elle n'aurait su dire si c'était parce qu'elle avait parlé de son garçon ou bien de la boucle nuptiale.
« Si fait, alors ?
Seras-tu bon avec Tim ? est bon avec moi ?
Ouais, autant que je puis l'être. En voyant son front s'assombrir davantage, elle se demanda s'il était furieux ou déconcerté. Plutôt déconcerté, espérait-elle. Un homme capable d'abattre un arbre et d'affronter une bête des bois se fait souvent tout petit devant une femme, elle le savait. Et en voyant le grand Kells aussi désemparé, elle sentit son cœur fondre.
« Tu m'en donnes ta parole ?»
demanda-t-elle. Son front s'éclaircit. Il sourit et ses dents blanches apparurent au sein de sa barbe noire.
« Si fait, je le jure, par ma montre et mon billet. »
« Alors je te dis oui. »
Ainsi s'épousèrent-ils. C'est à ce point que s'achèvent bien des contes. Hélas, c'est ici que commence le nôtre. On servit du graphe au banquet de mariage. Et pour quelqu'un qui avait cessé de boire, le grand Kells s'en éclusa une bonne quantité. Tim fut troublé de le constater, mais sa mère ne parut rien voir. Ce qui troubla également Tim, ce fut le petit nombre de bûcherons présents, bien qu'on soit le septième jour. S'il avait été une petite fille et non un petit garçon, un autre détail l'aurait frappé. Nombre des amis de Nell lui lançaient en douce des regards de commisération. Plus tard, bien après minuit, il fut réveillé par un choc sourd suivi d'un cri, sans doute les bribes d'un rêve, mais il lui sembla que cela venait de la chambre que sa mère partageait désormais avec le grand Kells. Quoiqu'il ait encore peine à le croire. Il tendit l'oreille un instant, et alors qu'il allait replonger dans le sommeil, il entendit des sanglots étouffés. Puis vint la voix rude et sèche de son nouveau beau-pas.
« Ferme-la, veux-tu ? T'as rien, y a pas de sang, et je dois me lever au chant du coq. »
Les pleurs cessèrent. Tim attendit, mais plus personne ne dit rien. Peu après que le grand Kells se fut mis à ronfler, il se rendormit. Le lendemain matin, alors que sa mère faisait cuire des œufs, il vit un bleu sur son bras, juste au-dessus du coude.
« Ce n'est rien, »
dit Nell en remarquant son regard.
« Je me suis levé cette nuit pour aller où tu devines, et je me suis cogné au montant du lit. Maintenant que je ne suis plus toute seule, il faut que je m'habitue à trouver mon chemin dans le noir. »«
Ouais, c'est bien ce que je crains, » se dit Tim.
Lorsque vint le second septième jour de sa vie conjugale, le grand Kells emmena Tim dans la maison qui appartenait désormais à Gash Anderson, le plus gros fermier de l'arbre. Ils prirent le chariot de Kells. Comme celui-ci n'était pas chargé, ne contenant qu'un peu de sucre, les mules avançaient d'un bon pas. Tim huma avec délice le parfum du bois de fer coupé. La maison de Kells était triste à voir avec ses volets fermés et les mauvaises herbes qui montaient à l'assaut de son perron.
Quand j'aurai évacué mon guina, Gash pourra en faire du petit bois. Grommela Kells, et grand bien lui fasse.
En fait, il ne souhaitait récupérer que deux choses. Un vieux tabouret tout cabossé et une grosse malle de cuir avec des lanières et une serrure en cuivre. Celle-ci était rangée dans la chambre et il la caressa comme un chien.
« Je ne peux pas abandonner ça, » marmonna-t-il. « Jamais, ça appartenait à mon père. »
Tim l'aida à la transporter. Mais ce fut Kells qui fit le plus gros du travail. La malle était sacrément lourde. Une fois qu'ils l'eurent chargée, le grand Kells reprit son souffle, les mains plaquées sur son pantalon recousu de frais. Puis, lorsque toute rougeur se fut effacée de ses joues, il caressa sa malle, faisant montre d'une douceur que Tim ne l'avait point vue manifester envers sa mère.
« Tout ce que je possède, rangé dans une malle. Quant à la maison, Gash l'a-t-il payé un bon prix ?»
Il se tourna vers Tim, comme pour le mettre au défi de le contredire.
« Je sais pas, »
dit prudemment le petit garçon.
« Les gens disent qu'il s'est montré juste. »
Kells partit d'un rire dur.
« Juste ! Juste ! Aussi juste et étroit que le con d'une vierge, oui !» « Non,
Il m'en a offert qu'une bouchée de pain car il savait que je pouvais pas attendre. Aide-moi à tâcher le haillon, gamin, et lambine pas. »
Tim n'avait rien d'alambin. Il boucla le nœud de son côté avant que Kel s'ait fini de serrer le sien, salopant le boulot d'une façon qui aurait bien fait rire son père. Cela fait, le grand Kel se gratifia la malle d'une nouvelle caresse affectueuse.
« Tout est là-dedans, tout ce que j'ai. Le vieux gâche savait qu'il me fallait de l'argent avant la terre pleine, hein? Qui tu sais va se pointer et il va tendre la main. »
Il cracha par terre.
« Et tout ça, c'est la faute à ta maman. »«
La faute à ma maman? Pourquoi t'as voulu l'épouser?
Tiens ta langue, petit morveux !»
Baissant les yeux, Kels parut surpris de voir qu'il avait serré le poing et le desserra.
« T'es trop jeune pour comprendre. Quand tu seras plus grand, tu verras qu'une femme n'a pas son pareil pour humilier un homme. Allez, on y va !»
Avant de monter sur le chariot, il se retourna et fixa le garçon qui était resté derrière la malle.
« J'aime ta maman, et ça doit te suffire pour le moment. »
Et lorsque leur équipage s'engagea dans la grande rue du village, le grand Kel se soupira et ajouta
« J'aimais aussi ton pas, et il me manque beaucoup. Sans lui, dans la forêt, c'est pas la même chose, jusqu'à Misty et Bitsy qui ne sont plus là. »
À ces mots, Tim sentit son cœur fondre un peu pour le colosse voûté qui tenait les rênes. Malgré lui. Oui, là, bien malgré lui. Mais avant que ce sentiment ait pu s'épanouir, le grand Kel se reprit la parole.
Ça suffit avec les livres, les chiffres et cette sorcière de Smack. Avec ses voiles et sa tremblotte, je me demande comment elle arrive à se torcher le cul.
Le cœur de Tim se contracta dans son torse. Il adorait apprendre et il aimait bien la veuve Smack. Voile, tremblotte et le reste. Il était consterné par cette remarque des plus grossières.
Que vais-je faire alors? T'accompagner dans la forêt?
Il se voyait déjà sur le chariot de pas, derrière Misty et Bitsy. Ce ne serait pas si grave, après tout. Kel eut un petit rire plein de mépris.
« Toi, dans la forêt? À 12 ans à peine?
J'aurais 12 ans dans... »«
Tu en aurais 24 que tu serais pas de taille à t'aventurer sur la piste du bois de fer. Et peut-être que tu le seras jamais, car tu tiennes ta mère à cet égard, et toute ta vie durant, tu seras le petit Ross. »
Nouvel éclat de rire. Tim se sentit rougir rien que de l'entendre.
« Non, mon gars, il y a du boulot pour toi à la scierie. T'es assez grand pour empiler les planches. Tu commenceras après la moisson et avant la première neige. »«
Qu'en pense maman ?»
Tim ne parvint pas à cacher son abattement.
« Elle a pas son mot à dire. Je suis son époux et c'est moi qui décide. »
Kels fit claquer ses rênes sur le dos des mules.
« Hue !»